de David, un cœur qui bat pour Dieu. Puis dans chaque série, j'ai l'habitude de vous amener un verset thème, mais là, ça va être un psaume thème, le psaume 23. Puis qui ici est capable de réciter le psaume 23? Peut-être quelques-uns? OK. Ben, en tout cas, tant mieux. Et ceux qui ont déjà été capables, qui l'ont oublié, ou ceux qui l'ont jamais été capables, ben, j'espère qu'à la fin de la série, vous allez être capables. C'est tellement une richesse, le psaume 23. Donc là, je vais faire le psaume 23 avec vous en image, OK? Fait que là, on va associer chaque phrase à une image, puis ça va nous aider à nous rappeler des phrases, OK? Donc, la première phrase, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, on a la houlette du berger, là, OK? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est quoi la deuxième phrase? « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Vous avez l'image de la brebis, là, qui semble être très bien, très, très confortable, là, au repos. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ensuite, « Il me dirige près des eaux paisibles. » Vous avez les eaux paisibles, c'est merveilleux, c'est rafraîchissant, c'est paisible. Moi, c'est une des choses que j'apprécie le plus quand je peux être au bord d'un ruisseau comme ça, surtout dans les montagnes. Ah, c'est incroyable. Dormir au bord d'un ruisseau, qu'on entend l'eau couler, là, c'est merveilleux. Il me dirige près des eaux paisibles. Ensuite, il restaure mon âme. Donc, vous avez l'image ici d'un lit de massage au bord d'une plage. Alors, c'est restaurateur, c'est bienfaisant. Le Seigneur veut faire ça pour toi. Il veut restaurer ton âme. Et pas juste le repos, mais la restauration. Wow! Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, on a vu la semaine passée que l'Éternel veut nous conduire. Ceux qui sont ses brebis, bien, la façon qu'on se conduit reflète sur lui, là. Il reflète sur son nom, sur son honneur. Puis, il a intérêt à nous conduire dans les bons sentiers. Nous, on a intérêt à quoi? À suivre, à l'écouter. Amen. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein, l'image d'un enfant qui tient la main de sa maman ou de son papa, là. Il ne craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, encore la houlette. Ensuite, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. C'est l'image d'un banquet. Okay, j'ai malheureusement pas trouvé de belle image d'un banquet, là. Mais l'image, c'est que Dieu dresse une table, c'est un banquet. Et David, la brebis de l'Éternel, est en honneur, même en face de ses adversaires. Dieu l'honore. Dieu l'honore en face, en présence de ses adversaires. Qu'est-ce qu'il fait encore? Oint d'huile ma tête, je suis choisi, je suis bien-aimé. C'est un symbole que Dieu m'a identifié comme lui appartenant, que je suis loin de l'Éternel. On sait que David s'appelait comme ça, loin de l'Éternel, celui sur qui Dieu a arrêté son choix. Chacun de nous, nous sommes aussi loin de l'Éternel. Non pas avec l'huile physique, mais avec quelle huile? Le Saint-Esprit. Amen. Et ma coupe déborde, hein? Ça veut dire qu'il est comblé, là. Sa coupe, c'est comme l'image de quelqu'un qui verse du vin dans une coupe, puis ça déborde. C'est une surabondance. C'est vraiment beau, cette image-là. Je suis comblé. Seigneur, tu me combles de bienfaits. Donc, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est comme devant un beau coucher de soleil, c'est comme on a ce sentiment de bien-être, là. Dieu prend soin de moi. Dans d'autres versions, c'est la bonté et la miséricorde, dépendamment des versions. Il y a des synonymes là-dedans. Bonheur, bonté, grâce, miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Imaginez-vous, là. Hein, des fois, il y a des loteries que tu gagnes 1 000 $ par jour pour le restant de tes jours. Et les gens, ils s'imaginent ça, là. Hey, tous les jours, on va recevoir 1 000 $. Mais si vous êtes une brebis du Seigneur Jésus, tous les jours, sa bonté et sa miséricorde t'accompagnent. Ça vaut bien plus qu'une loterie, ça. Beaucoup plus. Amen! Hein? C'est beau, hein? C'est incroyable. Et ensuite, finalement, j'ai un avenir assuré, une espérance assurée, vivante, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ton avenir est assuré. Alors, que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Donc, on va à chaque fois, là, je vais vous ramener ça, je vais enlever des phrases, je vais laisser juste l'image, puis on va essayer d'apprendre le psaume 23 comme ça ensemble. Amen? Super. Là, ce que j'aimerais, parce que je me rends compte que on n'a pas eu beaucoup l'opportunité dans les dernières semaines de pouvoir s'exprimer. On ne vous a pas laissé beaucoup le temps, l'occasion de vous exprimer personnellement envers le Seigneur. Et vu que c'est le repas du Seigneur ce matin, puis qu'on a vu déjà des belles choses avec notre frère, je voulais vous encourager. On va prendre 10 minutes à peu près, puis j'aimerais vous laisser le temps. J'aimerais que le Saint-Esprit nous conduise, dans un temps de prière, de louange, d'adoration, pour les choses qu'on a vues dans le psaume 23. Alors, premièrement, on a vu, puis, ça paraît pas beaucoup, là, mais « Seigneur, je te loue parce que », OK? Je vous suggère de partir votre louange comme ça. Vous n'êtes pas obligé, mais des fois, le temps de louange, là, on se sent un peu gêné, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi dire. Fait que là, je vous suggère une formule, OK? Sentez-vous à l'aise. « Seigneur, je te loue parce que », voici ce qu'on a vu dans le psaume 23 la semaine passée. « Je t'appartiens. Je te loue parce que je t'appartiens. » L'Éternel est mon berger, ça veut dire que je suis sa brebis. Je lui appartiens. Seigneur, je te loue parce que je t'appartiens. Seigneur, je te loue parce que je suis ta responsabilité. Hein, on se rappelle la semaine passée, David, là, il était en train de paître les brebis, de prendre soin des brebis de son père, et il y a eu des réflexions. C'est l'Esprit-Saint qui lui a amené ça, ces réflexions-là. Il dit, moi, je suis le berger de ces brebis-là. Ces brebis comptent sur moi. Bien, moi, j'ai un berger aussi. Et je peux compter sur lui. Parce qu'il est responsable de moi. Je suis sa brebis. Et si je suis sa brebis, je suis sa responsabilité. Amen. Donc, Seigneur, je te loue parce que je suis ta responsabilité. Seigneur, je te loue parce que je suis voulu, aimé de toi. Je suis ta brebis, je suis voulu, aimé de toi. Je suis sauvé par toi. Hein? On a vu dans les parallèles entre psaume 23 et Jean 10, où ce que Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi? Parce qu'il est obligé, parce qu'il est contraint, parce qu'il y a un salaire. Il dit non. Celui qui est payé un salaire, il va foutre le camp là. Il va sauver quand il voit l'ennemi arriver. Il dit, moi le bon berger là, je donne ma vie pour mes brebis. Pourquoi? Parce que je les aime. T'es-tu aimé? Est-ce que tu te sens aimé? Savoir aimer, mais être aimé, sentir aimé, c'est deux choses. Hein? Et je suis sauvé. On a vu ce matin, il a donné sa vie pour chacun de ceux qui croient en lui. C'est pas automatique. Il faut que tu viennes devant le Seigneur Jésus au pied de la croix et dises, Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin que tu me sauves. C'est pas suffisant, comme on a vu la semaine passée, de croire. Il faut recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, dit la parole, il a donné le droit d'être appelé enfant de Dieu. Donc, est-ce que tu l'as déjà reçu? Bien, c'est le moment de le faire. Reçois-le comme ton sauveur, comme ton berger. Je suis sauvé par toi. David, il dit, tu sais, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, là, je ne crée aucun mal, je suis restauré en toi. Je suis nourri par toi. Hein, on a vu. Je suis habité par toi, l'Esprit Saint, il m'onduit la tête. Je suis guidé par toi, il me conduit dans les sentiers de la justice. Je suis protégé par toi. Je suis honoré par toi et je suis à la maison avec toi. OK? Fait que prenons 5-10 minutes. Je vous laisse l'occasion de vous exprimer. Il y en a qui peuvent chanter aussi un chant ou prier. C'est pas le moment de prier pour un job ou mon pied qui me fait mal ou des choses comme ça. C'est pour louer le Seigneur, OK? Je te loue parce que. Ça marche? Puis je reviendrai après. Fait que je vais briser la glace, parce que je sais que la glace, ce temps-ci, est dure. Puis après ça, tu sais, des courtes de prières, pour que tout le monde puisse participer. Ça marche? Seigneur notre Dieu, c'est merveilleux ce psaume 23 que tu as inspiré à David. Seigneur, je te loue parce que je t'appartiens. Amen. Amen.
Seigneur, je te loue parce que tu as quitté ton trône de gloire pour venir souffrir sur la croix et d'être abandonné par ton Père à cause que tu portais nos péchés. On te remercie, Seigneur, et nous sommes reconnaissants de ce geste que tu as fait pour nous et pour lequel tu nous as sauvés.
Amen. Amen.
Seigneur, je te loue parce que tu m'as protégé et car ta parole me rassure en me disant que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ta humilité s'est manifestée à mon égard. Je te loue au nom de Jésus.
Amen.
Seigneur, je te loue parce que je suis nourri par ta parole à chaque jour.
Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur. Amen. Amen Seigneur. Amen. Ah oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Connaître. Nous sommes si bas sur terre. Chantons, chantons. Amen. Amen, Seigneur.
Je te loue, Seigneur, pour ce que tu dis de nous, que nous sommes des enfants bien-aimés.
Amen, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Oui. Amen, gloire à Dieu. Hey, c'est beau ça, hein? C'est un beau bouquet de louanges pour le Seigneur. Ça me réjouit beaucoup. Gloire à Dieu. On va essayer de prendre des moments comme ça davantage. Alors, on est rendu ici. On va fermer ça. La semaine dernière, on a vu que Dieu permet des circonstances dans ma vie afin que je me tourne vers lui et je trouve en lui tout ce dont j'ai besoin. Hein? On a vu David, Dieu a permis les circonstances de sa vie. Ce n'était pas quelque chose de glorieux, là, prendre soin des brebis. Tu étais à l'écart de la famille, un peu oublié. Tu ne participais pas à ce qui se passait dans la famille. Il était souvent couché en rase campagne, exposé aux éléments, isolé, froid, chaud. Les responsabilités aussi, veiller sur chaque brebis. Hein. Les brebis peuvent faire des fugues, les brebis peuvent tomber malades. Il fallait qu'ils soignent les brebis. C'était pas facile, là. Je pense que si chacun de nous, on nous mettrait dans cette circonstance-là, on ne trouverait pas ça facile ni joyeux. Mais David a réalisé que Dieu avait mis ces circonstances-là autour de sa vie ou l'avait placé dans ces circonstances-là pour lui révéler quelque chose. Et tout d'un coup, un jour, ou peut-être progressivement, on ne sait pas, hein, David, c'est comme... Il a comme allumé. Ben, je suis un berger pour ces brebis. Ça veut dire que c'est qui mon berger? Ben, l'Éternel est mon berger. Puis là, il s'est mis à réfléchir. Puis il a même composé un chant, un adolescent. Il a composé un chant qui a béni des millions de personnes à travers les siècles. Et qui nous bénit encore aujourd'hui. Fait que ce qu'on voulait surtout apprendre de ça, c'est que toi, tes circonstances de vie... Est-ce que tu trouves ça facile toujours? Je pense que si on prendrait, ça prendrait toute la journée de passer un à un, puis tout le monde dise qu'est-ce qu'il trouve difficile dans ces situations. Pas vrai? Mais est-ce que Dieu est souverain sur les circonstances de ta vie? Oui. Et Dieu veut se révéler à travers ça. Dieu veut te montrer quelque chose de sa personne. Dans ça, comme il a fait pour David. Donc, c'est ce qu'on a vu. David a découvert que Dieu était son berger. Et sais-tu quoi? Si tu permets à Dieu de se révéler à toi dans ces circonstances-là, là, ben Dieu peut transformer le mal en bien. La situation difficile, tannante, éprouvante que David vivait, Dieu l'a pris, là, puis il s'en est servi pour bénir des millions de personnes. Rien ne présageait ça, là. À l'origine. Est-ce que Dieu veut prendre toi, ce que tu vis dans ta vie, puis s'en servir pour bénir tes frères et sœurs, pour bénir des gens qui ne connaissent pas. Hein? Oui, je pense, hein? Parce que Dieu est souverain et Dieu est le seul capable de changer le mal en bien. Ce matin, avec le temps qui nous reste, Maurice, tu me fais signe, je vais regarder avec vous, je veux regarder avec vous qu'est-ce que signifie la phrase « homme selon le cœur de Dieu ». Hein? Dieu dit « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur ». Que veut dire, que signifie cette phrase-là? Puis des fois, pour comprendre quelque chose, il faut regarder à son contraire. Hein? Des fois, si on dit à nos enfants ou nos petits-enfants « sois poli », ils ne comprendront pas, là. Mais si on dit « j'aime pas ça quand tu me tires la langue » ou « quand tu ne m'écoutes pas » ou « quand tu me dis des choses pas gentilles », ça, c'est d'être impoli. Bon, on est en train de voir la chose et son contraire, OK? Donc, tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 16. C'est là que débute l'histoire de David, 1 Samuel 16. Et on lit là, l'Éternel dit à Samuel, le prophète, le Lévite, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Prions. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ce beau temps de louange, de prière, où ce que tu révèles ta personne à nous et nos cœurs répondent à toi, Seigneur. C'est bienfaisant. Et on veut aussi, Seigneur, bénir ton cœur de notre bouche et de notre cœur, Seigneur. Tu es notre berger. Tu es celui qui protège. Tu es protecteur. Tu es sauveur. Tu es restaurateur. Tu es bienveillant. Tu es gracieux et tu es pourvoyeur. Merci Seigneur, Père, Roi et Maître. Donne-nous par ton esprit sagesse et intelligence pour saisir, Seigneur, ce que tu veux nous montrer ce matin. On repousse toute autre voix que la tienne, Seigneur. Viens nous parler par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Le choix de David ne se situe pas dans un vacuum, mais se situe dans le contexte du rejet de Saül. Donc là, je vous parle de regarder le contraire. On essaie de voir c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi une personne selon le cœur de Dieu. Bien, il faut s'attarder un petit peu à son opposé. Et malheureusement, l'opposé, c'est Saül. Dieu dit, je l'ai rejeté comme roi, et puis j'ai vu quelqu'un que j'ai choisi parmi toutes les milliers d'Israël pour être le roi. On va prendre le temps de regarder un petit peu à l'opposé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là selon le cœur de Dieu. Donc, il faut reculer dans le temps et retourner dans le chapitre 13. Si vous tournez dans le chapitre 13 de 1 Samuel, on va lire quelques versets, les premiers 14 versets du passage. C'est 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. Saül était âgé de 30 ans environ. Il y a comme un manque dans le texte, dans certains textes. Bon. À son avènement, et il régna 42 ans sur Israël. Il sélectionna, mais là, ça c'est juste une introduction, OK? Verset 2. Il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Michmash et dans la région montagneuse de Bethel, et 1000 qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibéa de Benjamin. Les autres soldats furent envoyés dans leur foyer. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Saül, il vient d'être reconnu roi. il y a eu une situation où ce que des tribus de l'autre côté de la Jourdain étaient menacées. Il a mobilisé tout le pays, tous les hommes du pays, pour venir défendre ces gens-là. Et il a remporté une grosse victoire. Okay? Il a remporté une grosse, grosse victoire. Il a sauvé ces gens-là qui appartenaient à la nation d'Israël. Et là, on arrive au chapitre 13, et qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est qu'il vient de renvoyer tous ces soldats-là chez eux. Okay? C'est une grosse, grosse armée qu'il avait mobilisée pour cette mission-là. Cette mission-là s'est terminée avec succès. Là, il vient de renvoyer tout le monde chez eux, sauf 3000 soldats, 2000 avec lui, puis 1000 avec Jonathan. OK? Ça va jusque-là? Là, verset 3. Jonathan abattit la stèle dressée par les Philistins à Geba. Alors, se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du cor dans tout le pays. Bon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la nation d'Israël vient de sortir d'un temps très, très difficile, le temps des juges, où ce que ils ont été aux proies de différents adversaires parce qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel. Dieu envoyait des ennemis et ils criaient à Dieu. Dieu envoyait un sauveur, entre guillemets, les juges. Hein? Puis finalement, on arrive au temps où ce que le peuple crie à Dieu pour un roi. Et là, c'est Saül qui est choisi. Puis, mais par contre, la nation est encore sous la domination des Philistins, un peuple qui était sur la côte ouest d'Israël. C'était à l'origine probablement des Crétois de Crète. Et puis, ces gens-là sont puissants et ils ont la domination. Et l'Israël sont comme sous leur domination, OK? Mais là, Jonathan, le fils de Saül, il vient abattre la stèle là, qui représente la nation des Philistins à Geba, une ville de Benjamin d'Israël. Donc, les Philistins avaient érigé des choses dans le pays pour de montrer, regarde, c'est nous les boss, là. C'est nous, on règne ici. Fait que là, Jonathan, il vient d'abattre la stèle des Philistins. Ce qui veut dire, on ne vous laisse plus régner sur nous, là. C'est terminé. OK? C'est terminé. C'est comme que si quelqu'un arracherait le drapeau du Canada quelque part sur un édifice, puis disait, non, on ne veut plus que le Canada règne sur Québec. Fait que les Philistins comprennent bien, au verset 3, que les Hébreux se sont révoltés. Et là, Saül, il sonne le cor sur tout le pays, que tous les Hébreux le sachent. Mais le problème, là, c'est qu'il vient de renvoyer tout le monde chez eux. OK? Fait qu'imaginez-vous, là, vous avez été un soldat dans l'armée de Saül, vous avez remporté une grosse victoire l'autre bord du Jourdain. Là, tout le monde est content. Il vous renvoie à la maison, tu pars, tu es parti, tu es 2, 3, 4 jours de marche pour retourner chez vous. Et là, il faut revenir. OK, fait que ça ne marche pas trop, là, parce que les gars, ils ont hâte de voir leur famille, ils ont hâte de reprendre soin de leur ferme, ou je ne sais pas trop, leur boutique, ou peu importe. Là. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël était ainsi rendu odieux aux Philistins. Et pas seulement les gens et les gars qui font partie de l'armée, ils ont peur. Ils ont peur des Philistins. Tout le peuple se rassembla à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Mais tout le peuple, c'est une façon de parler, là. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre, 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable de mer. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Alors, Saül se trouve dans une position extrêmement difficile. L'armée philistine se mobilise, vient se déployer dans toute sa force en position de sorte que les forces de Saül se retrouvent entourées. Et là, les Philistins, les Israélites, ceux qui sont revenus, là, ben, ils paniquent. Puis il y en a beaucoup qui s'enfuient, qui se cachent. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus à l'armée. Alors, les soldats commencent à déserter. La morale des troupes est au plus bas point. C'est marqué qu'ils tremblaient de peur. Verset 7. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Ils quittent le pays même. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Ouf! Hein? Ça serait comme si l'armée américaine envahissait le Québec. Et tu serais un soldat là, pour le Canada, le Québec. Et ils sont 20 fois plus nombreux. Je pense qu'il y aurait de quoi trembler. Hein? On ne s'appellerait pas juste trembler de nom. Donc, là, verset 8. Il attendit 7 jours. Verset 8. Le temps rendez-vous fixé par Samuel. Donc, là, OK. Il faut retourner loin en arrière pour voir que Samuel avait donné rendez-vous à Saül. Et au chapitre 10, on n'ira pas voir, mais je veux juste vous dire, là, Samuel avait dit, « Va à Gilgal, attends-moi, au bout de 7 jours, je vais revenir. » Puis, tu sais, il y avait des sacrifices à offrir. Bon. Fait que là, Saül est là avec son armée, et il attend 7 jours, Samuel. Mais celui-ci, Samuel, n'arrivait pas. Les soldats commencèrent à l'abandonner, Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel apparaît. Samuel arrive. C'est Samuel qui avait oint Saül comme roi. Samuel était le prophète de Dieu. Il était le représentant de Dieu à ce moment-là. Et Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aura affermi ton royauté royale, ton autorité royale sur Israël. Il aurait fait en sorte que des descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme selon son cœur et de l'établir chef de son peuple. Puis Samuel le quitta et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il restait environ 600 hommes. Bon. Fait que Saül se trouve dans une position très mauvaise, très anxiogène. Et Saül attend Samuel les 7 jours, mais le 7e jour, il n'en peut plus d'attendre. Fait qu'il dit, amenez-moi les bêtes, on va les sacrifier, et il sacrifie les bêtes lui-même. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Non, parce qu'il n'était pas lévite. Avant que la tribu de Lévite soit établie comme sacrificateur pour Israël, les gens, oui, offraient. Abraham y offrait des sacrifices. Isaac, Jacob, etc. Vous allez voir, dans les Genèses, oui. Mais après l'Exode, Dieu avait dit, « Maintenant, je choisis la tribu de Lévi. » La tribu de Lévi et les descendants d'Aaron, c'est eux. Et tout le monde va, vous ne ferez plus de sacrifices chez vous. Vous allez amener vos bêtes au lieu que je vais indiquer, pour qu'eux fassent le sacrifice. Samuel, lui, il était lévite. Il avait le droit. Mais Saül, non. Et Saül, ben, il s'explique à Samuel, il dit, regarde, j'ai attendu 7 jours, puis quand j'ai vu que tu venais pas, il dit, je me suis fait violence. Tu sais, je voulais pas faire ça, là, mais il fallait. Sinon, les Philistins s'en venaient, puis j'avais pas imploré Dieu, fait que je me suis fait violence, puis je l'ai fait. Fait que, tu vois, ben, tu devrais comprendre, hein? Ben, oui, on comprend. Non, Samuel, il dit, tu as agi en insensé. Wow! Tu as agi en insensé. Le choix du terme n'est pas un hasard. Le terme insensé dans la Bible est un terme employé à plusieurs endroits pour indiquer quelqu'un qui agit sans tenir compte de la présence de Dieu. Fait que, dans le fond, là, je vous donne une autre image, insensé égale pas de Dieu. Et même un verset dans Psaume 53, verset 2, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais est-ce que Saül croyait en Dieu? Oui. Mais vous voyez, la semaine passée, je vous ai dit, il y a une différence entre votre théologie théorique et votre théologie pratique. Tu as beau croire en Dieu avec ta tête, mais si dans la vie de tous les jours, tu agis comme si Dieu n'existait pas, parce que tu prends les choses en main puis tu agis par tes propres forces, tu es un athée. Un athée pratique. Tu n'es pas athée en théorie, mais en pratique, tu l'es. Est-ce que ça arrive qu'on croit en Dieu, mais on agit en tant qu'athée? Oui, malheureusement. Et ça, la Bible dit, c'est d'agir en insensé. C'est là où ce que la différence entre ce que tu crois avec ta tête et ce que tu crois vraiment avec ton cœur paraît. À plusieurs endroits dans la parole, on dit que la sagesse commence par quoi? La crainte, la révérence de l'Éternel. Mais la révérence de l'Éternel se démontre par celui qui, celle qui se détourne du mal. C'est ça. C'est la crainte de l'Éternel, nous dit la parole, c'est de se détourner du mal. Donc, c'est pratique. Tu vois, ça se voit en pratique, la crainte de l'Éternel. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La révérence, le profond respect, ça se démontre dans ta vie ou ça ne se démontre pas. Revenons à Saül. C'est intéressant parce que quand on se met à analyser les choses, on découvre des aspects intéressants dans cette histoire-là qui nous ressemblent beaucoup dans le fond. Pourquoi? Saül prend des choses en main. Vous êtes d'accord avec moi? Il prend les choses en main et dit même, il dit, je me suis fait violence puis j'ai fait ça. Je me suis fait violence, je ne voulais pas faire ça, mais j'ai fait ça. Pourquoi Saül avait-il pris les choses en main? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit ça, c'est assez clair, n'est-ce pas, dans le passage. Il dit, quand je voyais que tu ne venais pas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Puis qu'est-ce qui se passe? Ces hommes le désertent, hein? Ces hommes le désertent, à gauche, à droite. À tous les jours, là, son armée fond à vue d'œil. Okay? Puis elle n'était déjà pas en mesure d'affronter la force énorme des Philistins. Puis là, ça s'effondre. Qu'est-ce que cette émotion d'anxiété? On l'a vu un peu la semaine passée, on a parlé. C'est quoi l'anxiété? Hein? L'anxiété, c'est quelque chose qui te saisit, qui te frappe de plein fouet comme un éclair, l'anxiété. Et quand cette anxiété-là te frappe, c'est quoi que ça démontre de ce qui se passe dans ton cœur? L'anxiété, comme on l'a vu la semaine passée, c'est le sentiment de ne pas être en mesure de faire face à une situation. Une situation menaçante, qu'elle soit menaçante pour ta santé, pour ton emploi, pour ton prestige, pour ta renommée, pour ton état financier, pour ton pour ta famille, pour tes relations, peu importe, là, tout ce à quoi tu attaches une importance, là, et puis que là, c'est menacé, là. C'est menacé, puis tu ne te sens pas en mesure de faire face à ça, tu ne te sens pas à la hauteur, ça va produire quoi? L'anxiété. L'anxiété révèle ça dans notre cœur. Et quand on est comme ça, où est Dieu? Dieu est loin, 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 très, très petit, même oublié. Pourquoi? Parce que là, tu t'es basé sur tes forces pour faire face à quelque chose qui menace tes désirs ou ton royaume. Et tu ne te sens pas en mesure. Pourquoi Saül est dans la peur? Pourquoi l'anxiété, on le voit là? Moi, j'ai comme compassion pour lui parce que je me mets dans cette situation-là, puis ben, il y aurait de quoi d'être anxieux, là. Cette émotion m'est très familière, ainsi que pour tout étudiant au cégep à l'université, surtout dans les périodes d'examen. Oh boy! On est face à quelque chose qu'on a peur qu'on ne serait pas en mesure de répondre. Pourquoi Saül vivait-il de l'anxiété? Il ne se sentait pas en mesure de faire face à l'ennemi, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela nous révèle sur son cœur? En qui plaçait-il sa confiance? En lui, en son armée, oui. Sur quoi s'appuyait-il pour faire face à la menace? Sur ses forces, sur son armée, sur ses hommes. Où est Dieu dans la situation? Et souvent, là, quand on vit des situations anxiogènes, là, c'est bon quand quelqu'un nous dit, mais où est Dieu dans ta situation? Où est le Seigneur? Il est où Jésus? Il est où ton bon berger? Des fois, on a besoin de quelqu'un pour venir nous dire, t'es un peu là, c'est quoi qui se passe? Saül semble s'appuyer sur lui-même et ses propres forces. Il a pris les choses en main sans tenir compte de la présence et de la parole de Dieu et ça l'a amené à faire un compromis. Hein? Il dit, je me suis fait violence. Oh. Quand quelqu'un dit ça là, ou quelque chose de semblable, là, ça veut dire, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Oh boy! Ça veut dire que j'essaie de me déresponsabiliser. Apparemment que les prisons sont pleines de gars qui disent « j'avais pas le choix, c'est lui qui, c'était lui ou moi ». Ah, OK. OK. Fait que lui a sorti un gun, mais moi je l'ai tiré parce que j'avais pas le choix. On entend ça souvent, là. Ah, OK, t'avais pas le choix. T'as un peu là. Explique-moi comment tu t'es ramassé dans cette situation-là pour commencer. Hein? Mais ils n'ont pas le choix. Je me suis fait violence. Ah. Oui, bien, dans le fond, c'est ça, c'est de se déresponsabiliser. Saül est en train de dire à Samuel, j'ai pas vraiment désobéi, je t'ai attendu là, 7 jours. Quand même. Je voulais implorer Dieu, tu vois, je le respecte, Dieu, là. Si on n'avait pas la réponse de Samuel, là, on serait tenté de dire, ben oui, Saül, dans le fond, il n'y a pas si mal agi que ça, Saül, mais je pense que, regarde, il a attendu 7 jours, puis il voulait implorer Dieu, là, parce qu'il voyait l'ennemi arriver, là, ça se comprend. Samuel, il dit non, tu as agi comme un insensé. Un insensé. Wow! Saül, tu as agi en insensé. Innocent, oui. Tu n'as pas respecté l'entente que tu as prise avec moi. Tu as pris les choses en main. parce que tu t'appuyais non sur Dieu, mais sur tes propres forces. Et cela t'a conduit à faire les choix que tu n'as pas le droit de faire. La fin justifie les moyens, hein, comme on dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Les fins justifient les moyens. J'ai fait ça, mais parce que je voulais consulter Dieu avant que l'ennemi arrive. Là, ça... Oui, Martial? C'est bon, c'est un bon point. Saül agissait comme si l'armée lui appartenait, mais c'était l'armée de Dieu, hein? D'abord. Au verset 14, on voit que Samuel dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dans Actes 13, 22, Paul est à Antioche en Pisidie et il relate un peu l'histoire de la nation Israël et il dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Peut-être juste baisser le son un peu, s'il vous plaît. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ou encore, en David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette expression-là, « homme selon le cœur de Dieu » C'est quelqu'un qui est soumis au désir, à la volonté de Dieu. Hein? Soumis au désir, à la volonté de Dieu. Un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Et ce cœur-là qui est soumis comme ça, bien, c'est un cœur christocentrique. Hein? C'est un cœur qui a Jésus au centre. C'est Jésus qui est au centre, qui est centré sur Dieu. David, plus tard, on va voir qu'il raconte des événements qu'il a vécu quand il était berger, entre autres un lion qui s'empare d'une brebis. C'est assez anxiogène, je pense. Mais qu'est-ce qu'on voit? David court après le lion, le saisit par la barbe et là, il abat et délivre la brebis. Waouh! Est-ce que vous pensez qu'il comptait sur ses propres forces? Bien, ça se pourrait, mais lorsqu'il raconte ces événements-là, il dit aussi un ours, la même chose est arrivée avec un ours, et il a abattu l'ours. Okay? Il raconte cette histoire-là quand il est devant Saül, puis qu'il s'en va affronter Goliath. Et il dit quoi? Il dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de lion me délivrera. » Wow! Ça veut dire que lui, là, quand il a couru après le lion, là, il ne comptait pas sur lui. Il comptait sur l'Éternel. Dans sa tête, dans son cœur d'adolescent qui était en amour avec Dieu, il se disait, « Dieu m'a confié cette responsabilité-là de prendre soin des brebis de mon père. Donc, Dieu va m'accompagner pour aller jusqu'au bout. » Wow! Wow! Quelle foi! Quel cœur en intimité avec Dieu, pas vrai? Dans tout Israël, là, imaginez, là, Dieu, il promène ses yeux sur tout Israël, peut-être... 1 million, 2 millions de population, c'est ce jeune homme-là, dans le champ, qui prend soin des brebis, qui est l'homme selon mon cœur. C'est lui. C'est lui. Et quand il dit à Samuel, on l'a vu la semaine passée, il dit, « Va moindre. » Samuel, il dit, « OK, Isaïe, je suis arrivé, là. Dieu m'a dit que c'est un de tes fils qui va régner, là. » Amène-moi tes fils. Le premier arrive, c'est une pièce d'homme, beau, capable. C'est lui, Dieu dit, non, non, non. Tu regardes à l'extérieur. Moi, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette expression-là? Homme selon le cœur, femme selon le cœur de Dieu. Être quelqu'un selon le cœur de Dieu signifie avoir un cœur qui désire faire plier sa propre volonté à la sienne et accomplir ses désirs à lui. Qu'est-ce que quelqu'un qui désire faire plier sa volonté comme ça à Dieu, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui est tourné vers Dieu, un cœur qui vit d'intimité avec Dieu, un cœur qui s'appuie sur Dieu, un cœur de brebis qui vit sous le regard de son berger. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps ce matin. Je te confesse, Seigneur, que j'ai souvent agi en insensé dans ma vie. Et lorsqu'il y a des situations qui viennent créer en moi de l'anxiété, Seigneur, je veux me tourner vers toi. Je veux prendre conscience que si je suis anxieux, ça démontre que je t'ai oublié à quelque part, Seigneur. Je m'appuie sur moi, sur mes forces, pour protéger quelque chose que mon cœur chérit, mais que peut-être prend la place de toi, Seigneur. Une idole, pardonne-moi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je me tourne vers toi. Je veux renoncer à mes projets, à mes désirs, à mes idoles. Je veux me centrer sur toi, Seigneur. Viens, Seigneur, faire de moi un homme, une femme, selon ton cœur. Viens glorifier ta personne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'on a un dernier chant. L'Éternel est mon berger.
sans cesse jusqu'à son retour.